إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنواصل بعون الله تبارك وتعالى دروسنا في شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لشيخ عبد الرحمن ابن الناصر السعدي رحمه الله تعالى، مع شرح الشيخ سليمان ابن عبد الله القصيري حفظه الله تعالى. وشرعنا اليوم إن شاء الله تعالى في قراءة باب الشروط في النكاح. وقال المؤلف رحمه الله: وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، وهي قسمان. وهي قسمان: القسم الأول صحيح، نعم، طيب، فهذا هو شرط الصحيح، وهو الذي فيه منفعة لأحد الزوجين، ولا يحل حراما ولا يحرم حلالا، كالأمثلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وغيرها. donc poursuit inshallah ta'ala explication de kitab manhaj salikin de l'imam Sa'di rahimahullah ta'ala. Et on commence aujourd'hui l'explication du chapitre des conditions dans le mariage. D'accord ? On ne parle pas, il y a des conditions du contrat de mariage dont on a parlé déjà dans les cours précédents. Il y a les conditions de validité du contrat de mariage. On parle ici des conditions dans le contrat de mariage qui sont édictées par l'un des deux parties ou les deux parties. D'accord ? Que ce soit du côté de l'homme ou du côté de la femme. طيب. Donc il dit l'auteur rahimahullah ta'ala, donc ces conditions là sont ceux qui vont être édictées, qui vont être émises comme conditions par l'un des deux époux sur l'autre. طيب. Pour que il puisse yani accepter et être consentant à contracter ce contrat de mariage. طيب. وهي قسمان. Et ces conditions-là sont de deux catégories. La première catégorie des conditions qui sont valides, qui sont sahiha, valides, acceptées, applicables. D'accord ? Donc il dit le cheikh, hafidhah Allah, donc la condition valide, c'est celle dans laquelle, bien sûr, il y a un intérêt pour l'un des deux époux. À condition, bien sûr, que cette condition-là ne rende pas licite ce qui est illicite et ne rende pas illicite ce qui est licite. Comme les exemples qu'a mentionné l'auteur, rahimahullah ta'ala, et autres encore. Donc, il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, parmi les conditions qui peuvent être, qui sont valides et qui peuvent être données donc par l'époux ou l'épouse, comme le fait que l'épouse émette comme condition à l'homme qu'il ne se marie pas avec une seconde femme. Vous voyez? Yanné lui dit, j'accepte de me marier avec un tel à condition que il ne se marie pas avec une seconde femme. Wala yatasarra. Wala yatasarra. Aïe, en la yatakhida amatan yata'uha. Wal ama, allati yata'uha, sayyiduha, tusamma surriya. Liannaha ghaliban, tuta'u sirran, duna ilmi zawja. Taïeb. Donc, on a dit, la condition que la femme peut émettre, c'est qu'il ne se marie pas avec une autre femme, en même temps qu'elle. Wala yatasarra, c'est-à-dire qu'il ne prenne pas une esclave femme avec qui il va avoir des rapports avec elle. D'accord? Donc cette femme esclave avec laquelle son maître a des rapports, en arabe on dit surriya. Hadi hiya surriya. Taïeb. Donc elle est appelée comme ça par rapport à un sir, le secret, car bien sûr la plupart du temps, l'épouse Zawja, celle qui a contracté un contrat de mariage avec ce maître-là, n'est pas au courant lorsque son mari a des rapports avec son esclave femme. Donc elle peut émettre comme condition qu'il ne prenne pas une esclave femme avec qui il aurait des rapports. D'accord? Wala yukhrijaha min dariha ou baladiha. Autre exemple de condition qu'elle peut émettre, que son mari ne la fasse pas sortir de chez elle, ni de la maison de ses parents. Yani qu'elle reste, yani, dans la maison de ses parents. Ou qu'il ne la fasse pas sortir de sa ville, de sa région, ou de son pays. Taïeb, donc elle a le droit d'émettre comme condition que son mari fasse qu'elle reste toujours dans sa ville, ou son village, ou même sa région, ou son pays. Aouziadati maharin, ou nafakatin. Elle peut dire aussi à son mari, comme condition, dans le contrat de mariage, qu'il augmente le montant de sa dot. Taïeb, qu'il augmente le montant de sa dot. Ou bien qu'il augmente le montant des dépenses qu'il va faire pour son épouse. Elle a le droit de faire ça également. Quand tu as un mètre, 1000 euros chahriyan. فتطلب 2000 فلها ذلك لأن لها في ذلك منفعة. Par exemple, si son mari à la base il lui dit tu auras comme dépense pour toi 1000 euros par mois par exemple, elle peut demander moi je veux 2000 euros. Voilà, ma condition est que ma dépense ou les dépenses en ma faveur soient de 2000 euros mensuellement par exemple. Eh bien, elle a le droit de faire ça car ceci est un intérêt, bien sûr, en sa faveur. Ou نحوي ذلك كان تقول مثلا أريد أن يكون مهري 100,000 مثلا والمهر لها بالنص القرآن يقول الله تعالى وآت النساء صدقاتهن نحلة. Et autre que cela, parmi les conditions qu'elle a le droit d'émettre, telles que le fait de dire « moi je veux une dot d'un montant de 100 000 euros, ou 10 000 euros, ou 1000 euros. Taïeb ? Na'am ? Et bien sûr, la dot est une chose qui fait partie des droits de la mariée. Yani, textuellement, on retrouve cela dans le Coran al-Karim, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala est dit, dans le sens du verset, « et donner aux épouses leur dot de plein gré. » فهذا ونحوه كله داخل داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم عن عقبة بن عامر. Et donc,
ces conditions-là que l'on a mentionnées entrent dans la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, qui est, certes, les conditions qui méritent le plus que vous les honoriez, eh bien, sont celles par lesquelles vous allez rendre illicite les rapports conjugaux, si vous voulez. D'accord ? Pour traduire dans le sens du hadith, les conditions à travers lesquelles vous allez rendre licite le fait d'avoir des rapports charnels avec votre épouse et votre époux. Vous voyez ? Donc ces conditions-là, s'ils sont des conditions qui sont valides, eh bien, ce doivent être respectés et honorés. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Uqba ibn Amr. ثم يقول المؤلف والقسم الثاني منها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار أي ومن الشروط ما هو فاسد ومبطل لعقد النكاح وهي نكاح المتعة والتحليل والشغار وهناك شروط فاسدة في نفسها ويصح النكاح معها مثل أن يشرط عليها أنها لا مهر لها أو لا نفقة ونحو ذلك فيصح النكاح دون شرط لمنافاته مقتضى العقد وتضمنه إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده. Et la seconde catégorie de conditions, c'est celles qui ne sont pas valides. Les conditions qui sont nulles et invalides. Exemple, le contrat de mariage qu'on appelle Al-Muta'a. On va expliquer, Inch'Allah Ta'ala, c'est quoi Al-Muta'a. Ou le contrat de mariage qu'on appelle Al-Tahlil. On expliquera ce qu'est Al-Tahlil. Le contrat de mariage qu'on appelle Al-Shirar. On expliquera ce qu'est Al-Shirar. Donc toutes les conditions qui sont émises afin de contracter ce genre de contrat de mariage, Al-Shirar, Al-Muta'a, Al-Tahlil, sont invalides, ne sont pas acceptées. Ces conditions-là sont nulles. Et interdites, bien sûr. Et dit le Cheikh Sulayman, donc, fait partie des conditions, celles qui sont valides, on les a vues dans la première catégorie, mais il y a celles aussi qui sont nulles et qui vont rendre le contrat de mariage invalide. Le contrat de mariage avec ces conditions-là ne sera pas valide. Tayyib, tel qu'on a dit, nikah al-muta'a, nikah al-tahlil, nikah al-shighar. Mais il y a aussi des conditions qui sont nulles et invalides en elles-mêmes, mais qui ne vont pas invalider le contrat de mariage. Donc il y a deux types de conditions fasida. Nulles. Celles qui vont annuler le contrat de mariage, mais il y a des conditions nulles qui ne seront pas valides, mais qui ne vont pas annuler pour autant le contrat de mariage. Voyez, par exemple, l'homme, il dit, voilà ma condition, et qu'elle n'ait pas de dot. Et qu'elle n'ait pas de dot. Voilà, je ne donne pas de dot. C'est ma condition. Ou ma condition, c'est que je ne dépense pas pour elle. D'accord ? Et autre que cela. Ces conditions-là, est-ce qu'elles sont valides ? Non, elles ne sont pas valides. Elles ne sont en aucun cas honorables et applicables. Cela dit, le contrat de mariage, lui, s'il est fait, bien sûr, en respectant toutes les conditions et les piliers du mariage, sera valide. Les conditions, eux, ne sont pas honorables et applicables. Mais le contrat, lui, est valide. Donc, pourquoi les conditions ne sont pas acceptables ? Bien sûr, parce qu'elles contredisent totalement les exigences du contrat de mariage et cela engendre le fait de ne pas honorer les droits de l'époux ou de l'épouse qu'il est obligatoire de respecter et d'honorer avant même la contractation du mariage. ثم قال المؤلف ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها وذلك في غزوة الفتح وهو ما جاء في حديث صبرة الجهني أنه كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة أخرجه مسلم ونكاح المتعة له صور عديدة منها أن يتزوجها لمدة محددة كأسبوع أو شهر فإذا انتهت المدة فإنها تنفسخ منه ولا تكون زوجة. Puis dit l'auteur, Allah Ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait d'abord autorisé al-muta'a. Encore une fois, on verra c'est quoi al-muta'a. Ça c'était, yani, au début, c'était autorisé. Ensuite, il l'a interdit. Ensuite, il l'a interdit. Et cela a été interdit lors de la victoire de Mecca. Al-Fath. La victoire de Mecca. Taïeb. Comme cela a été cité dans le hadith de Sabra al-Juhani radiallahu anhu, qui était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit aux gens, je vous avais certes autorisé à l'istimta', c'est-à-dire al-mut'a, avec les femmes, et certes Allah tabarak wa ta'ala l'a interdit jusqu'au jour du jugement. Certes, Allah l'a interdit jusqu'au jour du jugement. Hadith rapporté par Muslim. Donc, qu'est-ce que Nikah al-Muta'a? Donc, c'est quoi Nikah al-Muta'a? Le contrat de mariage qu'on dit al-Muta'a. Il peut prendre plusieurs formes. Parmi ces formes, le fait que l'homme va se marier avec la femme et va dire ma condition est que je puisse yani, jouir de toi pendant une durée déterminée. Pendant une durée déterminée. Une semaine, un mois, une année ou autre. Mais lorsque cette durée déterminée aura expiré, eh bien, tu ne seras plus ma femme. On sera séparés. Et le contrat sera annulé. Vous voyez ? C'est ça le mariage qu'on dit al-muta'. D'accord ? Et ce mariage, bien sûr, il est interdit totalement jusqu'au jour de la résurrection, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Donc celui qui émet ça comme condition, bien sûr, le contrat n'est pas valide. وَلَعَنَ الْمُحَلِّلْ وَالْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ وَجَاءَ هَذَا فِي عِدَّةِ أَحَادِيثِ مِنْهَا حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودِ قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له أخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن صحيح ونكاح التحليل هو أن يتزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها في جلوتا رحمه الله تعالى le prophète يعني, il a maudit celui que l'on appelle al-muhallil et al-muhallalala. Vous voyez ? On va expliquer c'est quoi al-tahlil. Donc là, on va parler ici du contrat de mariage qu'on dit al-tahlil. Si on veut traduire littéralement, ça veut dire la licéisation, le fait de rendre licite. Vous allez comprendre, Inch'Allah. Et donc, bien sûr, ce contrat de mariage, on dit al-tahlil, a été mentionné dans plusieurs hadiths, parmi eux celui d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a maudit al-muhil et al-muhallalala. Hadith rapporté par al-Tirmidhi ou al-Nasai, et il a dit al-Tirmidhi, c'est un hadith qui est bon et authentique. Donc, c'est quoi nikah al-tahlil? C'est quoi ce contrat de mariage? Eh bien, c'est le fait qu'un homme va épouser une femme, d'accord, qui était interdite en mariage à son ex-mari. Par exemple, elle était mariée avec un homme qui l'a répudiée trois fois. d'accord, qu'elle a répudié trois fois, et donc elle ne peut plus se marier avec lui. Elle ne peut plus revenir à cet homme-là. Sauf si elle contracte un nouveau contrat de mariage avec un autre homme, puis qu'ils aient consommé le mariage et que cet autre homme la répudie. À ce moment-là, elle pourra normalement retourner à son ex-mari. Voyez? Donc, nikah tahlil, eh bien, c'est le fait qu'un homme, en fait, va faire exprès d'épouser cette femme-là, à condition que lorsque, du coup, elle redeviendra licite à son ex-mari, il la divorce. En fait, c'est une ruse pour que cette femme redevienne licite à son premier mari. Vous voyez ? Eh non. Et donc, le prophète, il a maudit, comme on a vu, al-muhil. Donc, c'est celui qui va être utilisé pour se marier avec la femme, avoir des rapports avec elle, pour la rendre une nouvelle fois licite à son ex. En fait, il a maudit cet homme-là. Il a maudit aussi al-muhallalala, c'est-à-dire le premier mari, Annie, pour qui il a fait cette chose interdite par Allah, tabarak wa ta'ala. Cette ruse, cette manigance, ce stratagème. D'accord ? ونهى عن نكاح الشراء وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما وكلها أحاديث صحيحة وجاء هذا فيما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وما هو الشغار؟ الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق أخرجه البخاري ومسلم وقال ابن حجر في الفتح اختلف الرواة عن مالك في من ينسب إليه تفسير الشغار فالأكثر لم ينسبوه لأحد ونسبه محرز ابن عون وغيره لمالك وقال قرطبي تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره أهل اللغة فإن كان مرفوعا وهو المقصود وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضا لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال. Et enfin, le prophète il a interdit également ce qu'on appelle nikah al-shighar. C'est quoi nikah al-shighar? Le contrat de mariage qu'on appelle al-shighar. Eh bien, c'est le fait que le tuteur, donc le père par exemple, va marier la fille. Donc le père va marier sa fille, d'accord, à condition que l'autre lui marie sa fille. Le père va marier sa fille à un homme, à condition que cet homme-là lui marie à lui sa propre fille. Sans qu'il n'y ait de dot entre les deux. D'accord ? Yanni, je te marie ma fille, à condition que tu me maries ta fille. Hein ? D'accord ? Et sans qu'il n'y ait de dot entre les deux. Donc tous ces hadiths qu'on a évoqués, hein, que ce soit celui sur Al-Mut'a ou Al-Tahlil, Al-Shira, sont tous authentiques. Donc, cette forme de mariage, de contrat, a été rapportée par l'imam Malik, selon Nafi', selon Ibn Umar, radiallahu anhuma, donc qui a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a interdit al-shighar. Et donc, al-shighar, c'est quoi? C'est le fait que l'homme marie sa fille à condition que l'autre homme lui marie sa fille à lui aussi, sans qu'il n'y ait entre deux de sadaq, de dot. Donc, le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il dit, Ibn Hajar, dans Fath al-Bari, il dit que les transmetteurs du hadith ont divergé sur Imam Malik par rapport justement à ce hadith et à la définition de shirar. Et la majorité, la plupart, ils disent que des muhaddithin ne l'ont pas affilié à l'imam Malik. Il dit Muharriz ibn Aoun et d'autres que lui que ce tafsir est bien affilié à l'imam Malik. Il dit l'imam Qurtubi, rahimahullah ta'ala, quoi qu'il en soit, l'explication, la définition de shirar, elle est correcte, elle est juste et elle est totalement en conformité avec ce que disent les gens de la langue arabe par rapport au terme shirar. Donc si ce hadith, en tous les cas, il remonte jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillah, c'est ce qui est demandé. Mais s'il est yani mawquf, c'est-à-dire qu'il s'arrête à la parole du compagnon, qui est ici Ibn Umar, radiyallahu anhuma, eh bien c'est également un hadith qui sera accepté, car bien sûr les compagnons sont plus savants des paroles du prophète, alayhi salatu wa sallam, et des situations yani, qu'ils ont vécues avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Voyez. فنكتفي بهذا إن شاء الله ونواصل في درسنا المقبل في باب العيوب في النكاح والله تعالى أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.